bonjour, en votre compagnie Salsa Bertin pour ce libre journal éponyme. Alors aujourd'hui, une émission en deux temps, un temps qui va nous élever spirituellement en se replongeant au cœur de l'histoire de France. Et puis ensuite, une actualité brûlante, plus triste, et un appel à la mobilisation concernant la protection, la défense de l'enfance, puisque en France, la maltraitance infantile est malheureusement, on s'en rend compte, aujourd'hui, la parole se libère, elle est systémique. Voilà. Donc d'abord, je vous invite à vous élever et à vous replonger au cœur de l'histoire de France, de la triste histoire de France, celle qui concerne la Révolution française, qui se poursuit, je dirais, jusqu'à nos jours, à la fois dans l'actualité, dans la déliquescence morale. Et on va vous raconter l'histoire de 16 femmes, 16 héroïnes qui puisent leur héroïsme au cœur même de leur foi et de leur engagement envers Dieu. Et on va montrer aussi que cet engagement envers Dieu est aussi un engagement envers leurs frères, envers l'humanité et même envers leur pays, d'une certaine manière. On va vous raconter l'histoire des Carmélites de Compiègne, condamnées à mort et guillotinées le 29 Messidor en deux, selon les révolutionnaires, en réalité le 17 juillet 1794, dans la vraie vie, voyez, dans le réel, par le tribunal révolutionnaire. Et ce sont ces femmes qui vont être un peu comme des boussoles et peut-être des exemples pour notre temps, vous allez voir. Mes très chères sœurs, les événements qui agitent aujourd'hui la France nous montrent combien la justice de Dieu est offensée et combien les malheurs de l'Église sont grands. Nous devons nous offrir au Seigneur comme des victimes d'Holocauste afin d'obtenir de sa miséricorde la paix pour l'Église et pour l'État. Si le bon Dieu accepte notre offrande, nous devons être prêtes à tout souffrir pour lui, même la mort. Gardons surtout entre nous l'union et la charité, afin que notre sacrifice soit agréable à Dieu. L'aide de Mère Thérèse depuis la prison. Il est certain que notre position actuelle porte des exceptions qu'un cœur droit peut avouer, mais dont un cœur fidèle n'abuse pas. Amis auditeurs, j'ai le bonheur de recevoir pour parler des Carmélites de Compiègne avec moi dans le studio deux femmes, justement, pour en parler. Et l'une, d'ailleurs, n'est pas une descendante d'une Carmélite de Compiègne, mais est de la famille d'une des Carmélites de Compiègne, et c'est Guimette Lévesque. Oui. Bonjour Guimette Lévesque, merci d'être là. Je sais que c'est votre première radio. Et donc, merci de ce courage de venir à nous porter cette parole familiale, car vous avez une sainte dans la famille, c'est quand même extraordinaire, qui est sainte
Euphrasie de l'Immaculée Conception.
Sainte Euphrasie, votre grande tante. Exactement. Voilà. Et puis Clotilde Didiot, qui porte le cœur des femmes, je dirais. Bonjour Clotilde, vous êtes, vous, mère de famille et organisatrice d'événements, et notamment un qui s'appelle Cœur de femmes, tout simplement. Cœur de femmes, c'est un pèlerinage des femmes dans Paris que vous organisez le 11 avril. pour une invitation au partage, à la marche, à la prière pour toutes les femmes et les très très jeunes filles dès l'âge de 12 ans. Et on racontera le lien avec les Carmélites de Compiègne, puisque bien sûr il y aura un lien durant cette marche, et ça vous allez nous en parler. Et puis, alors plus loin de nous, un homme. Alors lui, il est loin, il est au téléphone. On le remercie d'être là. C'est un confrère qui est journaliste et qui a une passion. Qui me disait plutôt que d'aller au golf ou voilà, ou d'avoir des passions très personnelles. Eh bien, lui, il écrit des BD avec son épouse et c'est Olivier Malcura. Est-ce que vous êtes là, Olivier ? Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Donc, auteur de BD, et bien sûr, je pense que quand même, les auditeurs, ça leur met la puce à l'oreille, c'est une BD, une bande dessinée sur les Carmélites de Compiègne, martyrs de la Révolution, aux éditions Plein Vent. Grand format, magnifique format, magnifique BD. Donc, bonjour et merci d'être là.
Merci.
Voilà, alors, on va d'abord, chacun, dire ce qui vous relie au Carmel de Compiègne, même si je l'ai dit très très brièvement, mais c'est à vous de le dire, pourquoi vous êtes là. Et ensuite, donc sans déflorer complètement le sujet, on va raconter l'histoire de ces Carmélites de Compiègne qui ont inspiré la littérature, le cinéma, le grand Bernanos, déjà le grand Georges Bernanos. Je pense que la plupart des gens, des Français avec un minimum de culture le connaissent grâce à Bernanos et puis après au film, mais tout ça on va le raconter. Mais avant, j'aimerais que vous me disiez comment vous avez rencontré ces Carmélites de Compiègne, comment elles vous ont inspiré, pourquoi. Alors je vais peut-être commencer par la, non pas la descendante, mais la membre de la famille qui représente Sainte Euphrasie. Sainte Euphrasie, donc, qui a été, alors on va le dire, on est quand même dans une actualité, puisque récemment, le précédent pape, le pape François, a canonisé ces Carmélites de Compiègne, qui avaient été béatifiées, mais il y a très longtemps,
vers 1905, juste béatifié. Après la loi de séparation, voilà, de l'Église et de l'État.
Et on avait, dès 1860, commencé à instruire, je crois, il me semble. Et donc, ça a pris un temps incroyable, et c'est grâce au pape François qu'on a pu les canoniser, donc c'est tout récent.
Hein. De manière équipollente.
Ah oui, de manière équipante, c'est-à-dire sans miracle.
Sans preuve de miracle.
Sans preuve de miracle, voilà.
Elles sont martyres, donc elles sont forcément saintes.
Elles sont martyres, elles sont forcément saintes et martyres vraiment volontaires. Alors, Guillemette Lévesque.
Oui, en fait, pour la petite histoire, moi je ne connaissais pas les Carmélites par la famille au tout départ. J'ai lu Bernanos en 2012 et le dialogue des Carmélites m'a vraiment touchée, bouleversée. Donc je lis le bouquin. Après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a lu le bouquin ? Ben, on regarde le film. Donc, j'ai vu le film magnifique, le dialogue des Carmélites avec Jeanne Moreau, ouais, qui joue le rôle de la sous-prieure. Là encore, ça me bouleverse. Et c'est quelques années plus tard, ou par hasard, j'apprends que cette histoire qui m'a bouleversée, ben, il y en a une parmi les 16, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-tante. Voilà. Mais au départ, c'est vraiment Bernanos qui m'a touchée. Alors après, l'histoire de Bernanos n'est pas complètement la réalité. Hein. Il a romancé.
Alors c'est le père Brugberger,
oui,
qui était un prêtre résistant, oui, quand même, qui a exhumé cette histoire, qui a écrit et qui a demandé à Bernanos de faire un roman, en fait.
Voilà, je ne connaissais pas.
Il y a eu Gertrude, ouais, von Lefort, je crois,
ouais,
qui,
ouais,
a écrit déjà en premier, puis après à Bernanos qui a repris, ouais, effectivement. Les écrits de Gertrude von Lefort.
Gertrude et Brugberger qui a voulu faire le film à partir du dialogue des Carmélites. En fait, c'est ça voilà. Et donc, effectivement, c'est assez, bah, c'est un peu romancé, forcément, hein, pour être...
Oui, Blanche de la Force dans le roman n'a jamais existé.
Elle n'a jamais existé.
Ce n'est pas un des noms des 16 Carmélites. Mmh. Blanche de la Force n'existe pas. Si vous prenez le nom des 16 saintes, il n'y a pas de sainte Blanche.
Ah oui.
Mais bon, c'est quand même la mille-histoire. À la fin, elle meurt, hein, ouais, dans les deux cas.
Voilà, ouais, ouais. Et vous, Clotilde Didiot ?
Alors moi, ce qui m'amène aujourd'hui dans ce très beau studio, c'est que nous organisons chaque année un pèlerinage de femmes dans Paris, qui est sous l'égide de deux cœurs constants, le cœur immaculé de Marie et le cœur de Sainte Geneviève, qui est la première fondatrice de ce pèlerinage, puisqu'elle l'a fondé en son temps, au moment où Attila était en train de menaçait d'envahir la ville. Donc elle a réuni plusieurs femmes autour d'elle pour prier. Et donc, on reprend juste cette tradition qu'elle a elle-même fondée. Et chaque année, ces deux grandes saintes prennent par la main une sainte parisienne. Et donc, cette année, notre équipe a choisi les carmélites de Compiègne, puisqu'elles viennent d'être canonisées, et qu'on s'est dit, en fait, c'est naturel qu'on les choisisse.
Et là, c'est pas une femme, c'est 16 d'un seul coup.
C'est 16 d'un coup. 16 d'un coup, exactement. Waouh.
Oui, oui, c'est
puissant.
Ça. C'est puissant, effectivement. Et alors maintenant, je vais me tourner vers Olivier Malcura, donc l'auteur avec son épouse des Carmélites de Compiègne, avec les dessins de Fabrizio Russo, aux éditions Plein Vent. Alors vous-même, Olivier Malcura, comment avez-vous rencontré les Carmélites de Compiègne et pourquoi vous ont-elles inspiré, pourquoi avoir décidé de faire cette bande dessinée ?
Alors, personnellement, j'avais bien sûr entendu parler des Carmélites de Compiègne. Je n'avais jamais lu Bernanos, je n'ai toujours jamais lu Bernanos. J'avais peut-être... dans un vague souvenir, entreaperçu au moins un extrait du film avec Jeanne Moreau, mais en tout cas, je connaissais leur réputation, mais sans m'y être plus intéressé que ça. Et puis, évidemment, je fais de la bande dessinée avec ma femme. Et puis un jour, on a une amie qui nous contacte et nous dit peut-être la canonisation. Comme ça, qui pourrait intervenir. Le pape est en train de sans vouloir se décider. C'est une histoire passionnante. Et je suis moi-même de la famille d'une des Carmélites. Cette amie, vous l'avez en face de vous, puisqu'elle est Guillemette Lévesque, qui nous a mis le pied à l'étrier. Et là-dessus, on a contacté notre éditeur aux éditions Plein Vent, à qui on a dit sur les Carmélites dans les conditions actuelles, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Il nous a dit oui tout de suite, c'est-à-dire sans réfléchir, mais en nous fixant un délai trop très court, puisque grosso modo, on fait être en décembre, et il fallait qu'au mois de fin juillet, tout ça partait d'imprimeur. Et donc pour une bande dessinée, c'est vrai que c'est plutôt... pareil, c'est un an que 6 mois, mais on réussit grâce à un dessinateur qui est un cheval de course. on a réussi, c'est très important quand on fait de la bande dessinée comme ça, d'avoir une bonne team. Il faut bien s'entendre avec son dessinateur, il faut bien s'entendre avec son coloriste, il faut bien s'entendre avec son éditeur pour que tout ça avance et soit très homogène. Et si c'est très homogène, c'est l'un des ingrédients pour qu'on puisse travailler très vite, en confiance, sans passer des heures et des heures à discuter le bout de gras. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce scénario-là, puisque 6 mois plus tard, tout était prêt et l'album sortait en septembre en librairie. Quoi.
Vous avez un très très bon...
Ça a été une aventure formidable.
Ah ouais, un très bon dessinateur. Je veux dire que moi, là, j'ai la bande dessinée devant moi. On est vraiment plongé dans l'histoire. On est complètement. C'est-à-dire qu'il se met, on sent qu'il se... Enfin, en tout cas, moi, c'est moi comme ça que je le vois, en retrait du sujet. Et on sent qu'il est au service de son sujet et finalement du lecteur aussi. Et donc, c'est une plongée, c'est extrêmement, extrêmement facile à lire. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé vos enfants, à tous, surtout à Clotilde, à vous, vous avez plusieurs enfants et l'idée, c'était de les faire lire aussi.
Alors, moi, comme pour Guillemette, j'ai la chance déjà. Que cette BD ait été dédicacée par Olivier justement lors d'un marché de Noël, et c'est vrai
oui,
que
formidable.
Voilà, donc j'ai eu de la chance, et c'est comme disait Guillemette, c'est une BD collector maintenant, parce que c'était avant la canonisation. Donc,
ah oui.
Donc voilà, c'est chouette. Et les enfants l'ont toutes, enfin sauf le petit dernier qui sait pas lire, mais se sont tous plongés dedans. Et encore plus ces derniers jours parce qu'ils voient que je la lis, je l'ai ressortie. Mmh. Forcément, je prépare le pèlerinage cœur de femme, donc je me plonge dedans. Je prépare les méditations, je prépare les méditations du chapelet, l'adoration, etc. Donc je me plonge à fond dedans. Et en fait, ça les intrigue. Et du coup, je suis contente parce que je me dis, bah, mon premier rôle de mère, c'est quand même d'évangéliser en premier mes enfants. Donc, bah, ça leur donne envie de regarder, d'écouter, de se poser. Ça leur fait poser des questions aussi sur la vocation. Donc, je me dis, bah, c'est très bien. Voilà. Donc, gloire à Dieu.
Ah oui, oui, oui. Vous savez qu'il y a encore un couvent qui va disparaître, parce que voilà, il y a un manque de vocation sur les ordres anciens, justement. Alors peut-être qu'on pourrait faire venir des ordres un peu plus récents ou le monde de la tradition recrute énormément, donc ou peut-être des ordres issus de plus traditionnels ou traditionalistes. Mais en tout cas, oui, il y a un manque de vocation et je pense que les Carmélites de Compiègne, c'est une telle vocation de femme. Moi, j'aime beaucoup le film parce qu'il montre que la vocation est joyeuse, c'est-à-dire qu'il y en a une, elle monte dans les arbres et elle dit mais comment pouvait être gros, je sais plus sorte, je sais plus quoi, et sort Agnès ou je sais plus, mais comment pouvait être encore si gourmande, elle dit bah non, bah voilà justement avant d'être mangée par les lions, moi je veux bien manger moi-même, etc. Et la sœur lui répond, la mère prieure, ben les lions vous en seront gré, enfin vous en seront gré, voilà. Et donc il y a cette joie, d'ailleurs elles vont mourir joyeusement, elles vont aller à l'échafaud très joyeusement, et ça a été un exemple pour toute la foule qui a été sidérée.
Mais ça a sidéré la foule. Et comme disait Guimette avant cette émission, on en parlait toutes les deux. Et ça a été une des seules montées à l'échafaud où il n'y a pas eu de huées dans les rues, où il n'y a pas eu de crachats, où il n'y a pas eu de cris, où les gens étaient subjugués par leur dignité, par leur féminité, par la paix qui les habitait. Elles se sont mises à chanter comme si elles allaient à leur noce. Et elles ont chanté le Veni à Creator, elles ont chanté le Te Deum, elles ont chanté plein de pièces différentes, elles ont chanté des psaumes. Et quand elles sont arrivées au pied de l'échafaud, elles ont renouvelé leurs vœux, toutes.
Ah oui.
C'est en fait une horreur qui s'est transformée en liturgie et qui a été qui a été extrêmement missionnaire. En fait, elles ont été extrêmement missionnaires. C'est marrant parce que c'est quand même des femmes qui ont vécu toutes cachées toute leur vie, qui étaient missionnaires, hein, comme Carmélite, comme Sainte Thérèse de Lisieux, qui est vraiment une missionnaire reconnue. Donc on peut être caché dans son couvent et être missionnaire, mais là, c'est comme si tout resplendissait d'un coup, toute leur vie cachée tout à coup. C'était un feu d'artifice, quoi, et que les gens étaient ébahis par la beauté intérieure. Et qu'en fait, il n'y avait rien à dire. Face à ça, il n'y a rien à dire. Il y a juste à... Et je pense qu'elles ont dû convertir des cœurs sur leur passage. C'est impossible autrement.
Ouais, ouais.
Et elles ont dû consoler ce peuple français qui était dans la peine et qui souffrait. Elles ont dû consoler ce peuple.
Oui, parce qu'il faut dire quand même, c'est quand même une minorité, hein. C'est toujours une minorité agissante, abjecte, hein, faut le dire, parce qu'il y a une montée. D'ailleurs, quand on va parler de l'histoire, vraiment, ça va crescendo en fait. On voit les débuts de la Révolution qui vont même protéger entre guillemets les ordres religieux en leur versant même une allocation annuelle parce qu'on leur prend leurs biens, mais elles sont entre guillemets comme des locataires, mais c'est des locataires payés. Donc il y a quand même. Et puis après, ça va crescendo. Et après on les prive de tout subside, et après on va les persécuter, après on va leur demander de faire allégeance, etc. Et on voit, ça va crescendo jusqu'à 94 où c'est l'abjection totale, et on voit que c'est une minorité qui prend complètement le pouvoir et qui va verser des ruisseaux de sang dans une hystérie totale, quoi. Total. Et on voit d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec notre monde aujourd'hui, où on voit aujourd'hui une minorité. Donc aujourd'hui on est on a d'autres moyens de locomotion, d'information, etc. Donc c'est une minorité qui, même du point de vue mondial, ou au niveau même d'un continent ou au niveau mondial, peut prendre à travers des intérêts financiers ou autres le pouvoir. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans toutes les affaires épouvantables qui sortent, qu'il y a une minorité de quelques milliers de personnes dans le monde qui prennent le pouvoir avec des choses aussi épouvantables que ce qu'on a vécu à la Révolution, d'ailleurs.
Hein, je suis sûre que la Révolution française a introduit à enlever, à voler à la France sa véritable identité, en fait. Et du coup, depuis, on vit des horreurs, puisqu'on a enlevé la vocation première de la France, qui est liée à sa foi, à ses saints qui ont pétri la France et qui font toute son identité. C'est sûr que il y a un rapport de cause à effet, je pense, entre ce qu'on vit en ce moment et la Révolution française.
Oui, oui. Ouais. Parce que c'est, y a toujours eu des mauvaises choses qui ont eu lieu, mais pas institutionnalisées, vous voyez, quasiment.
Bien
Alors,
sûr.
C'est autre chose. C'était d'un autre niveau. Et donc, Olivier Malcura, vous, pour rebondir sur tout ce qu'on a dit, et puis vous n'avez pas dit vous, comment les enfants avaient réagi, parce que je crois que vous êtes devenu auteur de bande dessinée avec votre épouse pour faire lire vos enfants, et parce que vous trouviez que dans la bibliothèque française, il manquait des éléments à votre bibliothèque, et donc on n'en est jamais mieux servi que par soi-même. Vous vous êtes attelé à la tâche.
C'est ce que je vous ai dit.
C'est ce que je traduis. C'est ce que je traduis, vous voyez. Ce que vous dites, c'est ce que j'entends. Non. Parfois, ça peut être différent. Mais enfin, j'essaie d'écouter tout de même.
Alors, en effet, mon épouse écrit beaucoup, beaucoup plus que moi, puisque elle a publié, plus de 50 livres différents. Et moi, pour tout vous dire, je suis un très, très mauvais lecteur. Par contre, je suis un grand fan de bande dessinée. Et je pense que l'idée lui a plu qu'on puisse travailler ensemble, mener des projets communs d'écriture dans la bande dessinée, puisque c'était un média qui me rejoignait. Notre première bande dessinée est sortie très longtemps, c'est une dizaine d'années après qu'on ait écrit le scénario. C'était La vie de Louise et Martin, les parents de Sainte-Thérèse. Ça s'est sorti en 2020 et on avait dû finir à peu près 8 ou 10 ans plus tôt. Mais l'éditeur qui avait publié ce premier album s'était finalement désengagé. Et puis un beau jour, plein vent, a été frappé à la porte. Et puis ensuite, il y a eu d'autres bandes dessinées comme ça. C'est parti d'un constat. On a une fille qui s'appelle Zélie et un beau jour, on se trouvait au sanctuaire de Lisieux.
Excusez-moi, juste une toute petite... Je vous interromps deux secondes. Louis et Zélie Martin, pour les auditeurs qui ne savent pas forcément, ce sont les parents de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà.
Exactement. Exactement. Donc, nous avons une fille qui s'appelle Zélie. On va voir ce qu'on trouve sur, à l'époque, la bienheureuse Zélie. Et effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des livres très techniques écrits par de grands penseurs, de grands maîtres spirituels. Il y avait de la correspondance familiale qui est un truc absolument imbuvable. Et puis, c'est de là qu'on s'est dit, il faut faire une bande dessinée parce qu'en fait, la BD, c'est génial. On va y passer dessus 45 minutes, une heure.
Ouais.
Ça nous plaît. Là, on peut aller chercher le livre de 600 pages et poursuivre la découverte.
C'est vrai.
C'est une bonne entrée en matière, et notamment pour les jeunes, puisque dans toutes les familles, on a de la bande dessinée, chrétienne ou pas d'ailleurs, mais c'est un média qui est très accessible. C'est parti de là, on s'est dit, on va faire des beaux livres pour nos enfants. Et je pense que les livres de mon épouse, qui ne sont pas de la BD, s'inscrivent aussi dans cette démarche-là. Finalement, ça s'est fait un peu naturellement. Et effectivement, nos enfants sont les premiers lecteurs. En plus, ils sont très attentifs parce que ils viennent nous voir en nous disant, mais attention, là, on comprend pas. Là, vous vous êtes trompés. On est encore sur des brouillons, mais c'est eux les premiers correcteurs de la production de leurs parents.
Ah oui. Ah oui. Alors, qu'ont-ils pensé des Carmélites de Compiègne? Comment l'ont-ils reçu?
Personnellement, je pense que c'est l'une de nos BD peut-être pas les plus réussies, parce que c'est toujours très subjectif, mais ce serait peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, je pense que à travailler, c'est celle qui m'a le plus fait vibrer. Est-ce que c'est parce que leur histoire, est-ce que c'est parce qu'on avait une certaine pression, est-ce qu'on était dans un rythme différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans toutes les 7 ou 8 BD qu'on a pu, c'est peut-être celle qui a le plus de, le plus de qui crée pour moi le plus de souvenirs. Les enfants l'ont aimé, bien sûr. Hein. Alors tout de suite, dès le départ, notre éditeur nous avait dit « va pour des carmélites, mais pas d'hémoglobine ». Et on a réussi à parler de 16 femmes qui sont mortes la tête tranchée sans une goutte de sang. Vous avez juste dans la toute dernière planche, la case rouge symbolise évidemment la couleur du sang et qui va être, mais c'est une évocation, vous y auriez peut-être même pas prêté attention.
Je regarde aussi et j'ai pas fait attention.
Et sur la case rouge, vous avez quand même écrit « Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur, psaume 116 ».
Oui, parce que sœur...
Est-ce que c'est pas l'essentiel du message des Carmélites de Compiègne?
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'est vraiment « ne soyez pas vaincus par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien ». Donc vraiment, avec les Carmélites de Compiègne, on voit vraiment que l'amour a le dernier mot. Et c'est vraiment cette citation de saint Paul aux Romains, c'est vraiment le résumé de ce qu'elles ont témoigné. Et c'est vrai que quand on voit sœur Constance qui a été appelée la première à l'échafaud, qui tout à coup, après avoir reçu la bénédiction de la mère prieure, se met à chanter le psaume 116, comme si l'Esprit Saint lui avait dit « chante le psaume 116 ». Elle se met à chanter ce psaume, et il faut savoir que ce psaume, donc le psaume 116, « Laudate Dominum Omnes Gentes »,« Louez Dieu tous les peuples », qui a été repris après par ses sœurs, il faut savoir qu'on le chante au Carmel depuis le XVIe siècle pour consacrer l'entrée dans la maison de Dieu au moment d'une nouvelle fondation. Donc en fait, c'est comme si elles allaient fonder un couvent au ciel. En fait, c'est comme si le Seigneur lui disait « En fait, c'est maintenant que tout se joue ». Parce que vous allez toutes monter au ciel et je compte sur vous pour que vous veilliez sur la France maintenant pour toute l'éternité. J'ai besoin de vous. Et moi, je me dis toujours, mais quand elles sont arrivées au ciel, mais Sainte Jeanne d'Arc a dû vouloir rentrer dans leur rang. Et pour moi, les Carmélites de Compiègne, c'est toutes des petites Sainte Jeanne d'Arc immolées pour la France. Et je me dis aujourd'hui, alors en plus, elles viennent d'être canonisées. C'est vraiment... et vous savez, quand une personne est canonisée, il y a des grâces qui sont liées. Il y a des grâces, et c'est quand même une consécration. Donc en fait, je me dis, il faut prendre les grâces au vol. Là, c'est vraiment le moment de les prendre. D'où ce pèlerinage cœur de femme. C'est maintenant, il faut prier pour elles. Quand on voit ce monde qui s'embrase actuellement, elles sont quand même mortes pour la paix. Alors, évidemment, pour la paix en France, mais grâce à Bernanos, témoignage des Carmélites de Compiègne, a franchi toutes les frontières. Tout le monde les connaît, les Carmélites de Compiègne, grâce à Bernanos. Et donc, il y a beaucoup de gens qui les prient pour la paix. Et aujourd'hui, où le monde s'embrase, eh ben, je pense qu'elles sont tout à fait d'actualité et que c'est comme si le Seigneur nous disait « Je les ai canonisées maintenant, j'ai voulu qu'elles soient connues aux yeux du public terrien, si je puis dire, maintenant, parce que c'est... Allez-y, priez-les, elles sont au ciel, et moi je les vois tous les jours, prier pour la France, prier pour ce pays qui est la fille aînée de l'Église, et on a besoin de vous, les femmes, parce que vous avez des foi fortes dans toute l'histoire de l'Église, dans l'Évangile, dans l'histoire de France. On voit à quel point le talent de la France, le talent de la femme, c'est quand même souvent une foi très vive, et Sainte Geneviève nous l'a montré. Hein, au moment où elle était traitée de sorcière par tous ces hommes autour d'elle qui croyaient que ce qu'elle disait c'était n'importe quoi et qu'il fallait quitter Paris parce que c'est sûr on allait être envahi par Attila, elle a dit non, attendez, la prière peut tout, venez, qui est venu autour de Sainte-Geneviève? Que des femmes. elles ont cloué le bec de leur mari, elles ont dit non, attendez, hé les gars, vous êtes des hommes ou quoi là? Attendez, on va prier en fait, et avec la prière on peut tout faire. Voilà. D'ailleurs, il n'y a qu'avec la prière qu'on peut tout faire. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, la prière est le cœur de l'action politique. Même si le bon Dieu ne fait pas de politique, on le voit bien dans la vie des Carmélites de Compiègne, que la prière est le cœur de l'action politique. On voit bien que après leur martyr, 10 jours après, la terreur était terminée. Bon, bah, y a quand même un rapport de cause à effet. Elles ont fait une neuvaine au ciel. Voilà, c'est tout. Et bien voilà, Robespierre est mort 10 jours après. Donc voilà, et après il y a eu un vrai tournant, il y a eu un vrai adoucissement qui s'est installé en France.
C'était un peu le point d'acmé, et en fait elles
coupe le... C'est un peu comme si elle leur coupait l'herbe sous le pied alors qu'ils sont en pleine folie et d'un seul coup, elle leur coupe ça. Alors, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, il y avait une mère prieure du Carmel, justement, qui avait eu un rêve, enfin un songe.
100 ans avant, oui.
Sœur Elisabeth Baptiste.
Oui, je vous laisse raconter. Tiens, voilà. Allez-y, Guillemette.
Olivier pourra compléter. En fait,
Sœur Elisabeth. Je vous admire, mesdames.
Sœur Elisabeth Baptiste, donc je crois qu'on est en 1680, ou je ne sais pas exactement.
Ouais, 100 ans.
Voilà, on va dire à peu près un siècle avant. Donc, c'est une des sœurs du Carmel de Compiègne qui a ce songe. Elle voit un agneau. Enfin, elle voit Jésus agneau immolé et elle voit dans ce songe aussi des sœurs, une quinzaine de sœurs avec des palmes à la main, la palme du martyr. Et sœur Elisabeth Baptiste consigne ce songe dans ce qu'on appelle le livret des fondations du Carmel de Compiègne. Et un siècle plus tard, la prieure, Mère Thérèse de Saint-Augustin, dans sa prière, parce que ça commence vraiment à être très compliqué, elles sentent que le vent tourne et qu'elles sont en danger. Mère Thérèse de Saint-Augustin se souvient qu'un siècle auparavant, il y a eu ce songe par sœur Elisabeth Baptiste. Et elle se dit, mais peut-être que sœur Elisabeth Baptiste, est-ce que ce ne serait pas nous, cette vision qu'elle a eue de ces 15 sœurs, les palmes à la main, qui vont martyr, est-ce que ce ne serait pas nous, notre communauté?
Ouais, habillée en blanc aussi,
voilà,
elle les voit aussi
et
au paradis.
Et qui suivent l'agneau.
Elle les voit, ouais,
elles suivent l'agneau et du coup, Mère Thérèse de Saint-Augustin, après, va proposer cet acte de consécration à ses sœurs. Et pendant de septembre 1792 jusqu'à leur mort en juillet 1794, chaque jour, elles vont prononcer cet acte de consécration, ce vœu, pour que la paix soit rendue à l'Église et à l'État. On parle de l'État, on ne parle pas du Royaume de France.
Oui.
Pour que la paix soit rendue à l'Église et à l'État, on va souffrir en holocauste. Elles ont prononcé ce vœu voilà, quotidiennement, au départ avec l'abbé Courrouble, qui était aussi le prêtre, voilà, le prêtre réfractaire, mais ensuite qui a été dénoncé et donc qui est parti en exil. Mais voilà, ce vœu a été prononcé à la lumière du songe d'une ancienne sœur qui avait eu un siècle auparavant.
Mmh. Voilà. C'est là qu'on voit que Mère Thérèse de Saint-Augustin, elle brûlait du même zèle que Sainte Thérèse. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Sainte Thérèse d'Avila, quand elle a réformé le Carmel, elle l'a fait en premier pour prier pour la France. Ça, il y a très peu de gens qui le savent, alors qu'elle est espagnole. Donc, c'est quand même exceptionnel de se dire qu'il y a vraiment... cette identité de la France, qui est quand même la fille née de l'Église, elle est reconnue du monde entier. En tout cas, à l'époque, elle l'était. Pour que Sainte Thérèse d'Avila décide de réformer le Carmel et de faire cet effort en disant « Mais en fait, c'est hyper important et il faut le faire pour la France !» C'est quand même dingue. Mmh.
Et puis, ce que j'aime, Sainte Thérèse d'Avila, en fait, elle réforme, mais elle a une manière un rapport à ses filles, en fait, aux femmes, qui est quand même assez particulier. Elle en fait des combattantes. C'est pas des petites bonnes sœurs. Je sais pas, enfin dans leur couvent, un peu fragile,
un peu
fragile, etc.
Moi, la phrase c'est que j'aime, dur d'être religieuse.
Moi, j'aime beaucoup. Bon, Sainte Thérèse d'Avila, il y a un côté plus, un peu plus flamboyant que Thérèse Enfant Jésus. Mais enfin, moi, j'aime beaucoup Sainte Thérèse d'Avila. Et moi, la phrase que j'aime beaucoup de Sainte Thérèse d'Avila, elle leur dit soyez viriles, mes filles.
Bah oui. Il y a une forme de virilité,
dans mes citations préférées de Sainte Thérèse d'Avila.
Attention, hein. Moi, je vois quand je rentre dans le couvent de ma sœur tous les ans, je vois toutes ces qui n'est pas carmélite, qui est bénédictine, à Notre-Dame du Pesquier. Et à chaque fois que je rentre dans ce couvent où elles sont quand même 40 sœurs, il y a des jeunes et des vieilles, c'est vraiment une vraie famille magnifique. Quand je les vois prier, je me dis, mais quand je vois la mère prieure, quand elle tourne à gauche, elle tourne à gauche, quand elle tourne à droite, c'est vraiment une armée là, c'est une armée de religieuses qui sont toutes vouées à leur Seigneur et qui ont donné leur vie. Et sincèrement, si à l'heure actuelle notre monde tient, c'est souvent grâce à toutes ces âmes qui se donnent entièrement au Christ.
Ah, aux prières. Ça tient à celles qui dévouent
c'est
leur...
C'est les prières
qui ont une vie dévolue à la prière.
Ouais.
Elles portent le monde. Elles sont mères du monde, en fait.
D'où ce que je disais tout à l'heure, la prière est vraiment au cœur de l'action politique.
Alors, dans le film, donc de Bernardo Zuckerberg-Berger, on voit d'ailleurs effectivement qu'elle... elles ont une manière très féminine de résister. Moi j'aime beaucoup la manière de montrer que en fait elles restent douces, féminines, mais elles sont extrêmement fermes.
Elles
et je demande à Benoît, notre cher technicien, s'il veut bien, si vous le voulez bien, avant de redonner la parole à Olivier Malcura, de passer un extrait justement de ce dialogue des Carmélites de Bernanos, qui est quand même un grand film que je vous invite à regarder ensuite.
Monsieur le commissaire, je m'excuse de vous avoir fait attendre. Mais une élection est toujours une affaire plus compliquée et plus longue que prévu.
Et depuis quand, madame, vote-t-on dans les couvents?
Depuis toujours, j'imagine. En tout cas, depuis des siècles. Ce qui prouve que nous sommes moins réactionnaires qu'on le dit. Mon nom est Mère Thérèse de Saint-Augustin.
Et vous avez été élue prieure?
Mais oui. Je ne m'y attendais pas.
N'êtes-vous pas étrangère?
Dans nos maisons, il n'y a pas d'étrangères. Nous sommes toutes des sœurs.
Bien sûr. Égalité, fraternité et liberté.
Nous sommes ici librement. Vous avez maintenant non seulement l'inventaire complet des biens de la communauté, mais aussi des dots de toutes les religieuses. Voulez-vous procéder à quelques vérifications?
Non, madame. Je m'en tiens à votre parole et à votre signature. Cependant, mon devoir est de vous dire que vous n'avez que l'usufruit de ces biens qui appartiennent désormais à la nation. Citoyen, portez ces documents à la municipalité. Madame, il semble que dans tout le pays, et dans cette ville même, les braillards et les buveurs de sang tiennent le haut du pavé. Moi, je n'en suis pas. Alors, rendez-moi la tâche facile. À tort ou à raison, le peuple voit dans les monastères des repères d'accapareurs et de traîtres. Moi-même, je dois exécuter les ordres qui me viennent de Paris. Dans ces conditions, la moindre imprudence de votre part risquerait d'être fatale.
Vos recommandations rejoignent mon principal souci. Merci infiniment, monsieur le commissaire.
Et voilà, premier extrait, il y en aura un autre tout à l'heure, de ce grand film du dialogue des Carmélites, que je vous pouvais commenter, bien sûr. Donc, juste une petite chose, c'est que on connaît l'histoire du dialogue des Carmélites parce qu'il y a des sœurs qui ont survécu, et notamment l'une, Mère Marie de l'Incarnation de Dieu, qui va survivre à la terreur. Vous allez nous raconter comment. Et c'est ce fait historique, donc raconté par la sœur, qui est adapté par l'allemande Gertrude von Lefort, et qui, elle, introduit le personnage de Blanche, et je pense qu'elle a inspiré Blanche de la Force du nom de l'auteur, Gertrude von Lefort. Et c'est le religieux, donc dans les années 40, le père Bruckberger, religieux résistant, qui décide d'adapter cette version de Lefort au cinéma en demandant à Bernanos, voilà. Et donc écrit le scénario dialogue des Carmélites qu'on vient d'entendre. Donc là, je vous laisse réagir. Alors peut-être, allez, le pauvre quand même Olivier, Malcura, qu'on va vous laisser réagir. parce qu'on est là entre nous, et puis comme on vous voit pas, vous êtes juste par téléphone, on se dit, moi j'ai peur de vous oublier, alors, et tout à l'heure vous avez pas trop donné la parole, alors c'est à vous de commencer.
Oui, non, mais je pense que ce qui est frappant, et ce qu'on peut retenir de cette histoire des Carmélites de Compiègne, c'est que alors bien sûr elles sont inscrites de longue date dans les martyrologes de l'Église. Mais finalement, c'est par là qu'elles nous parviennent. Alors bien sûr, avec Bernanos, là on est, je sais plus, en 49, je crois, 1949. Et puis ensuite, non, avant ça, pardon, la dernière échafaud, Gertrude von Lefort, en 1931, en 1949. Ensuite, il y aura l'Opéra de Poulenc en 1957. Et puis le film dont on vient d'écouter l'extrait, le dialogue des Carmélites, de Brut Berger en 1960. Et donc c'est par l'art que, en fait, leur vie a fasciné les artistes, leur histoire a fasciné les artistes. Et peut-être que on n'aurait pas ce même attachement ou cette même dévotion aux Carmélites de Compiègne. L'art nous a permis de nous les représenter, de mieux les connaître, de les rendre, j'allais dire, palpables, vous voyez. Et ça, c'est assez fascinant. Quand on a travaillé sur notre scénario de bande dessinée, il y a eu un passage de recherche documentaire qui a été assez intense, mais finalement, on a cette vision de l'art qui peut être parfois un peu tronquée pour les besoins de l'adaptation. On a parlé de Dange de la Force, qui est une invention hein, de Bernanos. Mais il y a deux ouvrages qui font à peu près l'unanimité, ou en tout cas référence, quand on parle des Carmélites de Compiègne. Il y a d'abord le livre du Père Bruno, le sang du Carmel. Le Père Bruno était un carme, il a écrit un ouvrage passionnant sur les Carmélites, le sang du Carmel. Et puis ensuite, il y aura Apaiser la terreur de William Bush. C'est plus récent, c'est des années 2000, je crois. C'est un universitaire qui est un spécialiste de Bernanos. Voilà. Et donc, toute la recherche documentaire. Et puis, vous imaginez, il faut réussir quand même à faire rentrer en 46 planches, parce qu'on a un temps contraint. Il faut réussir à faire rentrer, non pas une, mais 16 héroïnes. C'est quand même un travail j'allais dire qui nécessite un certain un vrai travail de fond pour réussir à ne pas en privilégier une plus qu'une autre, à valoriser la collectivité, l'ensemble, l'esthèse. Hein, voilà ce qui est fascinant dans ce travail. Et en fait, on peut dire que nous sommes très fiers d'être une nouvelle pierre à cet édifice culturel qui continue à transmettre
l'opéra
des Carmélites de Compiègne aujourd'hui.
Oui, oui. L'opéra hein, de Poulenc a été aussi pas mal joué. Il y a Olivier Py qui l'avait...
Dans le monde entier. Hein.
C'est un des opéras les plus joués.
Mais il y avait aussi l'interprétation d'Olivier Py, je ne sais pas si vous avez vu, qui était avec du béton, sur quelque chose d'assez intériorisé, et qui, lui, a été sensible à une certaine lecture de Bernanos qu'on peut interpréter comme le silence de Dieu après la guerre, hein, après la Grande Guerre, écrasé par tout ça. Et il dit d'ailleurs, être croyant aujourd'hui, c'est affronter le silence de Dieu. Et en fait, d'une certaine manière, oui, hein, quand on est submergé par par des actualités, par la guerre, par des horreurs sans nom. Et après, c'est dans certains événements auxquels il faut être très attentif qu'on va voir Dieu se manifester comme effectivement, comme vous le disiez, Didio, 10 jours après l'arrêt de la terreur, quelques jours après la mort de Robespierre, ou encore de nos jours. Par exemple, Crans-Montana, l'incendie de cette boîte de nuit dirigée par quelqu'un qui avait été quand même condamné pour proxénétisme aggravé. C'est quelque chose de très très grave. C'est-à-dire qu'on donne les clés à quelqu'un qui arrive avec des millions de millions en liquidité, qui achète des établissements, et puis on l'autorise à tout faire, à recevoir des jeunes, des mineurs, donner de l'alcool, etc. Enfin, c'est une folie quand même quand on y songe. Et ça finit très mal, bien évidemment. À un moment, le mal finit mal. Ça ne peut que mal finir.
Le mal attire le mal.
Le mal attire le mal. Donc, et là, on ne va pas avoir le silence de Dieu, malgré de tous ces morts. C'est-à-dire que deux personnes vont prier, une va sortir sa croix, et le feu va se détourner de lui. Premier miracle, au sein de Crans-Montana, c'est-à-dire hier, aujourd'hui, dans notre monde. Et le deuxième, une jeune femme, qui était sur des corps, enfouie sous des corps, qui était en train de brûler complètement, voilà, qui se met à prier, je crois qu'elle va avoir des médailles autour du cou qui touchent, et qui prie, et d'un seul coup, quelqu'un qu'elle n'aura pas identifié d'ailleurs, on ne sait pas comment, lui prend le bras, la tire de là, la fait sortir, elle ne sait même pas qui.
Son ange gardien, peut-être.
Peut-être son ange gardien. Donc, il y a deux miracles. effectif, réel et éclatant. Donc en fait, voilà, le
silence... Dont on ne parle pas beaucoup malheureusement.
Donc, pas suffisamment, c'est pour ça que j'en parle.
Bravo.
Parce que, voilà, le silence de Dieu, ça peut paraître le silence de Dieu quand on est submergé, mais en fait, Dieu est partout.
Il est vraiment là.
Il est là et il donne des signes qu'il faut apprendre à voir et à décrypter.
Bien sûr. Et on le voit dans toute l'histoire de France.
Et dans toute l'histoire. Et moi, je voudrais aussi, dans l'abominable affaire diabolique de Epstein, qui est tout un système qui ne concerne pas que les enfants, c'est pour ça que je suis important de le dire aujourd'hui, on a un témoignage particulièrement bouleversant et effroyable d'une enfant, d'une très, très jeune adolescente, une enfant. Et Epstein dit... Elle est dans le lit, enfin c'est une épouvante, et elle dit de toute façon Jésus va me sauver, Jésus n'empêchera pas que je meure, et de toute façon Jésus est avec moi. Et il met oups à la fin, voyez. Et bien le oups c'est que lui il est mort et que là il grille pour l'éternité. Et je ne suis pas suffisamment bonne pour ne pas m'en réjouir, c'est pour ça que je suis parmi vous d'ailleurs. Donc il faut savoir que tous ces gens-là vont griller pour l'éternité. Leur place est déjà, ils sont bien réservés au chaud et ils vont tous partir. Et il y en a déjà un certain nombre d'entre eux qui sont partis. Et donc, le miracle, c'est que finalement, cette histoire, elle soit sortie. Déjà, l'histoire de cet enfant qui parle de Jésus. Et que c'est grâce, peut-être à elle, une petite martyre, hein, faut le dire, et peut-être à beaucoup d'autres enfants qui sont morts, parce qu'on estime à... des centaines, peut-être 1200 hein, sur l'île d'Epstein, qui ont été assassinés, ne serait-ce que dans le ranch, n'en parlons pas, assez peut-être que tous ces gens vont tomber, parce qu'ils vont tomber, et tous.
Après, malheureusement, moi... Mon...
Au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer, je vous le dis.
Après, moi, je ne me réjouis vraiment pas du tout.
Eh bien, oui, mais vous êtes côté, vous êtes plus sainte que moi. Moi,
non,
je suis parmi vous, parce que
pas du tout, je pense...
Une bad girl, que... comme on dit en bon français, sur la courtoisie, désolée.
Non, je pense au bon Dieu qui pleure devant leur sort.
Qui pleure,
et c'est pour ça que la Sainte Vierge nous demande à plusieurs fois, à chaque apparition, mais priez pour les pécheurs.
Nous ne sommes pas tous le même genre de créature, Clotilde.
Non, je ne suis pas en train de... Mais attendez, je ne dis pas ça pour... Voilà, je suis loin d'être une sainte, vous savez. Mais je dis ça parce qu'en fait, il faut aussi prier pour ses ennemis, et c'est ça qui fait toute la différence, et c'est ça qui fait qu'un chrétien est vraiment un chrétien, et c'est ça qui fait d'ailleurs toute la beauté des Carmélites de Compiègne.
Ah, mais peut-être.
Parce que
c'est très beau,
jusqu'au bout, hein, justement, Guimette me racontait ça tout à l'heure, en me parlant de sœur, je ne sais plus quelle sœur était
doyenne,
tombée.
La doyenne, c'est Sainte Charlotte de la Résurrection qui a 78 ans, donc quand elle arrive à la conciergerie en charrette, parce qu'il a fallu faire le chemin de Compiègne jusqu'à la conciergerie, elle a les mains liées dans le dos et il y a un bourreau qui la jette de la charrette. Donc forcément, elle tombe face contre terre, elle s'explose le visage sur le pavé de la conciergerie. Tout le monde croit qu'elle est morte. Elle se relève, le nez en sang, et là, elle dit à son bourreau « Oh, Dieu soit loué, vous ne m'avez pas tué, sinon je serais passée à côté de la couronne du martyr. » Et limite, elle le remercie. Enfin, voilà, ça va.
Ah bah, il y a beaucoup de ça, hein, qui remercient leur bourreau.
C'est complètement dingue. Cette sœur Charlotte de la Résurrection, 78 ans, elle me touche.
L'autre aussi, qui a 78 ans, et que les bourreaux aident à monter jusqu'à l'échafaud, elle les remercie aussi.
Et elle dit je vous pardonne de tout mon cœur, comme je voudrais que Dieu me pardonne.
Oui, exactement. Ouais.
Alors, on dit que pour un seul pécheur, tout le ciel se réjouit. Pour un seul pécheur repenti et converti, parce qu'il ne suffit pas de se repentir, il faut se convertir. Mais enfin bon, c'est une grande entreprise, une vaste entreprise, et la plupart d'entre eux, de toute façon, ne sont pas prêts à cela, ne veulent pas cela, et ont versé du côté obscur de la force, bien volontairement, avec, et on le verra un peu dans la dernière partie de l'émission, même avec des rites, etc. Complètement fous d'ailleurs, parce qu'ils n'y ont aucun intérêt, la vérité. Mais enfin bon, c'est comme ça, il y a des gens bêtes, stupides, partout. Mais en tout cas, voilà, les Carmélites de Compiègne, voilà, c'est que Dieu est partout et que Dieu fait des miracles et que c'est souvent, on ne les voit pas. Qu'en pensez-vous, Olivier Malcura, en fait? C'est de ce silence de Dieu qui peut paraître dans l'œuvre de Bernanos et finalement, pas tant que ça.
Le silence de Dieu, c'est... Oui, alors, vous parliez des miracles. Je pense que, évidemment, quand on demande la canonisation de quelqu'un, il y a toute une enquête qui est faite par l'Église, et donc le Carmel de Jonquière, qui a évidemment participé à ce travail, a compilé depuis, en fait, depuis des années, bien avant que la procédure commence, des courriers qui arrivent du monde entier, de gens qui remercient pour des grâces obtenues. Alors c'est intéressant parce qu'on peut voir que ces 16 carmélites françaises, qu'est-ce que c'est que la France à l'échelle de la planète. Ces 16 carmélites françaises sont connues dans le monde entier. Il y a des pays qui ressortent un petit peu plus d'autres.
Amérique centrale, l'Amérique,
Philippines.
Effectivement, l'Amérique centrale, les Philippines, je crois aussi, sont des régions où les carmélites sont très populaires et où les gens ont obtenu des grâces par leur intercession. Alors, dans le cas d'une canonisation équipollente, on gagne du temps parce qu'on n'a pas besoin d'étudier. Il n'y a pas besoin de reconnaissance de miracles, puisque elles sont canonisées, elles sont reconnues martyres au nom du sang versé. Leur foi n'a pas été remise en cause, et donc elles sont mortes en haine de la foi, et donc elles sont martyres et canonisées. Mais en tout cas, voilà, leur rayonnement, lui, a dépassé l'Hexagone, évidemment par l'art, mais aussi par la ferveur, par la foi et par la puissance du message qu'elle véhicule.
Est-ce que c'est pas aussi à travers le procès et la manière dont le procès s'est fait, comme pour Jeanne d'Arc finalement?
Elles ont été très fortes pendant tout le procès. Elles ont gardé la tête haute.
Elles ont combattu. Elles se sont défendues pendant le procès, alors que c'était une parodie de procès, parce qu'il n'y avait pas de témoins, pas d'avocats pour se défendre. Donc c'est une parodie de procès. Néanmoins, elles combattent pendant le procès. J'ai un petit exemple qui me vient en tête. On accuse les sœurs d'avoir, lors d'une perquisition, qu'on aurait trouvé des armes chez elles. Et là, Mère Thérèse de Saint-Augustin brandit son crucifix et dit « Non, la seule arme que nous ayons, voilà, c'est le Christ, c'est notre crucifix. » Donc elles se sont défendues pour la vérité. Elles ne se sont pas laissées conduire à l'abattoir. Elles sont martyres, mais... Elles se sont défendues.
Elles ont combattu. Bien sûr.
C'est très important.
Combattantes. C'est vraiment la vocation de la carmélite. C'est toujours Sainte-Thérèse d'Avila. Soyez virile, mes filles. Ouais.
Ah ouais. Puis même quand on les traite de fanatiques, quand Fouquier-Tinville les traite de fanatiques et que je ne sais plus quelle sœur répond, mais qu'est-ce que vous voulez dire par fanatisme?
Voilà. Et la sœur, c'est sœur Marie-Henriette de la Providence qui répond, qui interpelle Fouquier-Tinville. C'est le même accusateur public que pour le procès de Marie-Antoinette.
Ah oui.
Et donc, elle lui pose deux fois la question. Mais vous parlez de fanatisme, mais qu'est-ce que vous entendez par là? L'accusateur public ne répond pas, elle lui repose la question. Et là, enfin, Fouquier-Tinville lui dit « Vos croyances puériles et vos sottes pratiques de religion. Vos croyances puériles et vos sottes pratiques de religion. » CQFD, voilà, elle meurt en haine de la foi.
Donc elles ont...
C'est quand même Marie-Henriette de la Providence qui l'a poussée dans son retranchement.
Elle a la tête froide jusqu'au bout.
Qu'il avoue que c'est juste sa haine à lui. En fait, gratuite, puisque ça, leur pratique n'altèrent en rien ni la vie d'autrui, ni ne font du mal à quiconque, bien au contraire, etc. Donc c'est de la haine à l'état pur. Et donc, et on le voit après dans le fonctionnement suivant de la République jusqu'à nos jours, avec des comportements, et c'est une lente déliquescence, c'est une lente putréfaction, quoi. Mais voilà, alors après, évidemment, Clotilde, vous voulez qu'on parle, alors on passera... entre les deux parties de l'émission, un dernier extrait de ce film magnifique. Olivier Malcura, vous vouliez peut-être juste réagir parce qu'on va parler maintenant de Cœur de femme.
Oui. Un beau pèlerinage, d'après ce que j'ai compris.
Olivier Malcura sur les Carmélites de Compiègne.
Je voudrais remercier alors évidemment Guillemette Lévesque parce qu'elle nous a mis le pied à l'étrier, c'est une belle aventure et c'est formidable de pouvoir partager pas tout ce que l'on sait, mais un peu plus que ce que l'on sait de ces carmélites. Mmh. Et puis, remercier aussi une religieuse du Carmel de Compiègne, qui est sœur Marie-Pierre, qui est la sœur archiviste. Alors, elle est discrète, elle n'aime pas qu'on cite son nom, mais elle me pardonnera. Et en fait, elle nous a accompagnés du début à la fin, relisant pratiquement quotidiennement notre travail, nous prodiguant ces précieux conseils qui nous ont permis d'être au plus juste, à la fois dans l'histoire qu'on racontait, mais dans le dessin, dans les couleurs. Elle a tout suivi de A à Z, elle a fait un travail remarquable. Alors que la première fois que je l'ai contactée pour lui demander si elle acceptait de nous aider, elle m'a répondu « oui, mais j'ai pas le temps ». et c'est une merveilleuse aventure qui a duré six mois.
Ouais, avec
et,
vous.
C'est merveilleux. Et une belle amitié, en tout cas une amitié spirituelle qui est née de là. Voilà.
C'est très chouette. Et alors, il y a quand même un extrait du procès. On nous accuse d'avoir conspiré contre la République. Nous protestons que nous n'avons jamais formé d'autre projet que de vivre fidèlement selon notre règle et de prier pour tous les hommes. Si l'on nous condamne pour avoir conservé notre foi et nos engagements religieux, nous l'acceptons sans résistance. Et voilà. Et après, évidemment, ce grand silence de la foule respectueux pendant leur mort, chacune, quand les 16 montent à l'échafaud, une par une.
Magnifique.
Il y a une chose aussi qu'elles comprennent dans le fil de leur histoire, c'est que à un moment, quand elles comprennent qu'elles sont foutues, on va dire les choses comme ça, les deux sœurs âgées s'en vont, quittent les refuges dans lesquels elles avaient été abritées lorsqu'elles ont été expulsées du Carmel, et puis elles reviennent, je crois, le soir même, en demandant pardon
à la prière.
Saint-Thérèse de Saint-Augustin. Et en fait, là, le lecteur comprend que elles ont redécouvert leur vocation et que leur vie était déjà donnée le jour où elles ont fait leur vœu définitif. Voilà, la vie d'une religieuse, c'est une vie qui est sacrifiée. Alors, toutes les religieuses ne sont pas
martyrs,
destinées aux martyrs, mais en tout cas, leur vie est déjà donnée. Et si le martyr se présente, eh ben, accueillons-le avec joie, puisque c'est un don qui nous est fait.
Ouais. Alors moi, ce que j'aime chez Bernanos, c'est que c'est en fait grâce à lui, donc avec cette histoire qui est portée grâce à Bernanos dans le monde entier, il va opposer la violence révolutionnaire à la dignité spirituelle des religieuses et donc de nos racines profondes. Et ça, je pense que c'est vraiment le message porteur à porter aujourd'hui partout et en tout lieu et que la foi peut transformer la peur. Qui est légitime, encourage.
Bien sûr, c'est ce que dit, on revient toujours à Saint Paul. Ouais. Ne soyez pas vaincus par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien.
Oui, oui, oui. Alors maintenant, on va parler corps de femmes. Donc c'est le 11 avril, donc pèlerinage des femmes dans Paris. Donc derrière, finalement, Sainte-Geneviève, qui était quand même une grande héroïne parisienne. Hein,
c'est notre patronne,
notre patronne
principale de ce pèlerinage.
Oui, oui.
Ah oui, avec la Sainte Vierge, bien sûr.
Ouais.
Mais comme je vous disais, chaque année, on a une sainte différente, on prie sous l'égide d'une sainte différente. Et cette année, en équipe, on a choisi les Carmélites de Compiègne. Et donc, on est très heureuse parce qu'on trouve que s'il y a bien des saintes à prier aujourd'hui, vu le déclin de notre pays, vu l'embrasement du monde, je pense qu'on est vraiment dans le sujet et que on espère que cette année encore, il y aura encore de nouveaux chapitres, de nouvelles paroisses qui nous rejoindront pour cette aventure. Cette aventure de prière, qu'est-ce que c'est en fait un pèlerinage? C'est surtout faire un acte d'abandon, se dire en fait on peut rien faire par nous-mêmes, on peut rien gérer par nous-mêmes, demandons, disons au Seigneur qu'on lui fait confiance tout simplement.
Il y a des choses qui nous dépassent, donc on va en parler d'ailleurs dans la seconde partie de l'émission, de choses qui semblent nous dépasser, mais il faut agir. On dit toujours aide-toi, le ciel t'aidera.
Exactement.
Donc en fait l'essentiel c'est d'être dans l'action, et puis parfois ça peut paraître un peu dérisoire par rapport à l'ampleur de la tâche, mais en fait tout vient par surcroît. C'est l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur? J'ai que 5 pains et 2 poissons pour nourrir toute une foule. Vas-y, fais-le. Et puis, en fait, tout le monde sera nourri. Des milliers de gens vont être nourris. Je sais plus, on avait calculé à peu près le nombre de gens qu'il devait y avoir, je ne sais plus, ça avait été fait, un vrai travail historique. C'est qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et les 5 pays, il y avait des restes. Et donc, en fait, ça veut dire que rien n'est impossible. On dit toujours rien n'est impossible à Dieu. Mmh. Et personne
qui
soit...
Avec Dieu, on peut tout faire. Mais que sans lui, on ne peut rien faire, par
voilà,
contre.
Voilà. Et donc, un vrai croyant, chrétien, même musulman, même juif, il sait, qui prie le Dieu unique créateur, que tout est possible.
C'est la foi qui déplace les montagnes.
Et que c'est la foi qui déplace les montagnes. Mais qu'il faut commencer par agir, évidemment. Donc, 14... Alors, c'est cœur de femme, pèlerinage, tout attaché, .wordpress.com. 14h30, il y a une messe à Saint-Paul-Saint-Louis. Ensuite, vous pouvez nous dire, il vous reste 30 secondes.
À 16h, conférence. Donc, si vous voulez en savoir encore plus, il y a une conférence sur le Carmélite de Compiègne qui sera faite par le père Xavier Snoeck. Et puis après, nous partirons vers le cimetière de Picpus. Nous nous arrêterons à la place de la Nation où elles ont été guillotinées et nous ferons des prières devant les fosses communes et puis nous...
Oui, elles ont été mises à la fosse commune, hein,
oui,
c'est pour ça.
Oui, tout à fait, oui. Exactement. Elles ont été enterrées dans les fosses communes, la tête et le corps, hein, je précise quand même. Et après, nous aurons une adoration méditée avec justement beaucoup de passages de ce qu'elles ont dit, les citations des Carmélites de Compiègne, donc dans la chapelle Notre-Dame de la Paix. Et ça se terminera à 22h.
Moi, je dirais que pour avoir un cœur de femme, pour honorer des héroïnes, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'être complètement catholique. Hein. On peut marcher en tant que femme, en tant que mère, en tant que religieuse, en tant que célibataire, en tant que voilà, Camille. On peut marcher en tant que femme.
C'est pour tous les âges, mais c'est pour ça d'ailleurs que ce pèlerinage est génial parce qu'il est vraiment adapté à tous les âges et on n'a pas besoin d'être riche parce que c'est pas cher, c'est 10 euros.
Ouais, on peut donner plus si
loin.
On peut, mais voilà.
C'est si vous avez du mal à marcher, on marche vraiment pas beaucoup.
Pas beaucoup.
On adapte à tous les âges.
Ouais.
Donc venez, c'est pas grand chose et ça fera tellement plaisir au bon Dieu. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de la prière des femmes. Donc venez, soyez nombreuses pour honorer ce temps de prière pour notre pays, pour notre monde qui s'embrase. Je crois que c'est vraiment important.
Merci beaucoup Clotilde Didiot, merci.
Merci
à vous Guillemette et l'évêque. Je vous invite à rester avec moi dans le studio pour la deuxième partie, qui est assez courte. Les Carmélites de Compiègne, mère de Olivier Malcura et Fabrizio Russo, avec son épouse, hein, monsieur et madame Malcura, martyr de la Révolution, c'est chez Plein Vent. Merci à tous les trois. Et un dernier extrait des Carmélites de Compiègne, avant d'un... Merci.
Comme vous m'avez fait peur. Mais que signifie cette visite en pleine nuit? Comment va notre père?
Il m'a chargé d'un message pour vous. Il juge que vous n'êtes plus ici en sécurité.
Je n'y suis peut-être pas, mais je m'y sens. Cela suffit pour moi.
Blanche, nos moments ensemble sont comptés. On ne peut plus défendre le roi que de l'étranger. C'est pourquoi je pars. Ne vous faites aucune illusion. La Révolution n'épargnera rien de ce qu'elle a décidé d'abattre.
En somme, chevalier, vous me conseillez de fuir le danger alors que vous-même y courez.
Non, je vous prie, ne faites pas l'enfant. Cet habit que vous portez n'est plus une protection, au contraire.
Monsieur le chevalier, l'habit de Carmélite est un uniforme sur un champ de bataille. Et le Carmel est une forteresse qui se prépare à subir un assaut furieux. Mais il est vrai, ma fille, que tant que vous n'avez pas prononcé vos vœux, vous êtes libre de nous quitter. Il suffit, ma mère. Je reste. Je voudrais que vous pensiez à moi comme à un compagnon de lutte. Car nous allons combattre, chacun à notre manière. Et la mienne a ses risques et périls comme la vôtre.
Eh bien, adieu, ma chérie. Je sais que notre père sera fier de vous.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Amis auditeurs, en votre compagnie Salsa Bertin pour le Libre Journal éponyme. Bonjour à mon invité qui est à côté de moi en studio, Farid Deba, bonjour.
Oui, bonjour Farid, DMS Deba, c'est le nom complet.
DMS, enfin, je ne savais pas DMS comment le prononcer, je suis désolée.
DMS, tout simplement.
C'est rare qu'on ait trois consonnes à la, le sud l'une des autres, donc j'étais très embêtée. Bon, non, alors, Farid Demesdeba, d'accord. Et donc, Ludovic Joubert, mon chroniqueur, on va commencer par sa chronique, parce que la dernière fois, on l'avait oublié, c'était voilà, et je bats ma coupe, il est trop discret, alors que je lui dis toujours, vas-y, il faut intervenir, etc., et il n'intervient pas. Bonjour Ludovic.
Bonjour, ça va.
Voilà. Bonjour, et là, on va parler d'un sujet grave. Stop à la pédocriminalité, grand rassemblement, samedi 4 avril, à patate 14h, place de la République. L'organisateur, c'est notre ami Farid Demesdeba, donc de TPA, alors tpam-euroc.org. Alors, ça soit TPA. Comment vous prononcez ? Alors, c'est que des...
Ouais, non, en fait, ça, c'est
Le nom de l'association.
Le nom de l'association, c'est Touche pas à mon enfant.
Ouais, touche pas à mon enfant, hein, voilà.
Europe.
C'est beaucoup mieux.
Voilà, parce que le Touche pas à mon enfant est une ONG reconnue d'utilité publique marocaine. Et puis nous, je suis le président de l'antenne
Touche pas à mon enfant,
Europe.
C'est clair. Et donc, voilà. On va commencer par la chronique de Ludovic Joubert, la chronique des mots à tiroir. Donc, Ludovic Joubert, qui est professeur de français et qui est auteur de la toxicologie du langage, donc spécialiste des mots et de la manière dont ils peuvent être traficotés. Et donc, je vous laisse intervenir, Ludovic.
Oui, le mot choisi, c'était « omerta », dont l'origine étymologique la plus probable est une contraction de l'italien « homo », qui veut dire « homme », et « humilta », « humilité », renvoyant à la soumission des hommes d'honneur. C'est tout ce que j'ai trouvé. Le concept de soumission des hommes d'honneur est difficile à comprendre, mais il l'est peut-être moins si on renonce à le comprendre, à moins qu'il ne signifie « soumission au code d'honneur ». La notion d'honneur a été bradée il y a longtemps par le pouvoir, avec celle d'humilité. En fait, tout se passe comme si le déshonneur était devenu un motif de promotion dans la vie publique, dans la vie politique surtout. À en juger par le cas, parmi d'autres, d'Ursula von der Leyen, envoyée aux luxueuses galères de la Commission européenne pour bons et loyaux services corrupteurs en Allemagne. Il est vrai que le code moral des gouvernants est difficilement lisible vu d'en bas. Pour revenir à Omerta, une autre hypothèse suggère une déformation de l'arabe, El Amr excusez-moi pour la prononciation, l'ordre et l'obéissance. Tout cela pour désigner le silence dans les milieux proches de la mafia, silence qui marque aussi des institutions tout à fait officielles comme la Grande Muette, c'est-à-dire l'armée, un des deux bras armés de ce qui constitue le monopole de la violence légale. Difficile de parler d'omerta sans parler de mafia, mot qui désignait au départ l'allure et l'audace avant de désigner une société secrète. Secrète est peut-être en l'occurrence une coquetterie, une vantardise qui se porte à la boutonnière de costumes brillants. Associée à la mafia, l'omerta, qui signifie silence, fait oublier que le silence volontaire, le silence non monnayable, est précieux à une époque où la médiatisation encourage à dilapider la parole. À l'origine obscure du mot mafia, on peut déterrer une idée de protection des faibles, curieux emploi du mot protection, en tout cas comme elle a évolué, elle vous protégerait contre ses propres agressions, difficile à croire. Elle fait fonctionner le langage un peu comme cet emploi a fait fonctionner le langage un peu comme dans la blague soviétique. Saviez-vous que le camarade Alexandrovitch a gagné une voiture neuve à la loterie ? Oui, c'est vrai, mais elle n'était pas neuve, mais d'occasion. Et ce n'est pas une voiture, mais un vélo. Il ne l'a pas gagné, on le lui a volé. Et c'est ainsi qu'on traduit le français en français. L'évolution du mot, du nom de la société criminelle, mafia, l'identifie à l'exaltation de l'idée exagérée de force individuelle, d'arbitre unique, de tous les différents conflits d'intérêts et d'idées. Le pouvoir légal ou illégal se tend toujours en miroir flatteur. Le pouvoir démocratique, lui, exalte la force collective des victimes. En tant qu'arbitre de tous les différends, il sait que le conflit vient toujours de l'extrême droite, jamais de l'extrême gauche, ni de l'extrême centre. Les conflits d'intérêts sont entre les mains des lobbyistes. Et oui, si elle est institutionnalisée, la corruption doit être appelée autrement. Comme par magie, ce n'est plus la même chose si elle porte un autre nom. Quant au conflit d'idées, le pouvoir est rebelle et révolutionnaire par définition, rendant-lui la grâce d'épargner cette peine à la populace. C'est ainsi que le pouvoir se voit dans le miroir qu'il se tend, qu'il ne s'avise pas de le poser par terre, ce miroir, et de marcher dessus, il s'y virait à l'endroit et risquerait de ne jamais s'en remettre. Mais loin de moi l'idée de comparer le pouvoir à une mafia. Mafia nous dit le Robert historique, voire archéologique, où sont enterrées les notions d'honneur, d'humilité et de silence, s'applique par extension à une coterie secrète servant des intérêts privés, plus ou moins illicites, et par analogie, un groupe occulte. Occulte signifie caché, car le pouvoir occulte, épidermique, se cache, comme dans la lettre volée d'Edgar Poe, à la vue de tous, bien caché, comme la mafia du cinéma, il se cache derrière les grands discours, il se cache dans la lumière, il se cache devant les caméras.
Merci Ludovic. Alors, je vais justement demander à Farid, qui est des Messes Débats, qui est à côté de moi, qui est réalisateur, qui est donc qui dirige cette association, l'antenne française Europe, de cette association de protection de l'enfance, justement à l'heure de cette, à la veille de cette manifestation, qui n'est pas la première, au terme de 18 ans de combat qui se poursuivent, évidemment, les camarades, la lutte continue, bien évidemment. Plus que jamais, je dirais, et à l'heure surtout où explosent les scandales, où je disais dans l'autre partie de l'émission d'ailleurs que on se rend compte que la pédocriminalité, c'est-à-dire ce qu'il y a de pire, le crime des crimes, hein, donc qui pour moi, je crois qu'on peut même pas imaginer même si on revenait à l'époque du Moyen Âge et qu'on reprenait tous les systèmes de torture et tout, ce serait encore trop doux pour châtier les gens qui commettent ce genre de crimes. Bon, donc partant de là, on se dit que ce sont des monstres, qu'il y a toujours eu des monstres, qu'il faut faire la chasse aux monstres, certes, mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est systémique. C'est un système. Donc, évidemment, ce grand rassemblement du 4 avril, il est fondamental. Et le mot « omerta », je trouve finalement, était, Ludovic, très bien choisi. Et je vais demander justement à Farid de réagir déjà à cette chronique et puis de la relier peut-être à son combat.
Oui, moi je vais en faire carrément un lien avec mon histoire personnelle et professionnelle surtout. Puisque, en fait... 2015, j'avais commencé une série documentaire sur la pédocriminalité qui s'appelait « L'innocent sacrifié ». Et l'objectif de cette série documentaire, c'était effectivement de faire un focus sur la pédocriminalité, un épisode par pays. Le premier épisode, ce qu'on appelle un pilote, communément dans le langage de la production audiovisuelle, se passait au Maroc. C'était beaucoup plus simple pour moi, puisque j'y avais déjà toutes mes entrées, avec cette ONG marocaine, voilà, qui avait la possibilité de me faciliter, on va dire, les investigations que j'ai menées sur place. Parce que même, ça m'a pris à peu près 2 ans d'investigation. Et donc, ce premier épisode est produit, réalisé, il est diffusé en festival, vous savez, pour pouvoir trouver des partenaires de diffusion, des chaînes de télé, etc., ou des plateformes de streaming. Bref, il y a eu des prix à l'international.
Ah oui.
En France, aucune diffusion, même une simple petite MJC de banlieue qui organisait un petit
aucun
festival.
Aucun cinéma, rien.
Aucun festival.
Pas de cinéma, pas de chaîne de télé.
Du tout,
même privé,
ça a été carrément un blackout. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque, j'avais une situation assez confortable en tant que réalisateur et producteur. J'avais énormément de commandes. Et au moment où j'ai eu ces prix à l'international et où on a su que j'étais sur cette série documentaire, tout s'est arrêté. Et vraiment, quand je vous dis tout s'est arrêté, il y avait un avant et un après. Voilà, donc c'était le prix à payer pour cette lutte. Tant que j'étais, on va dire, militant, etc., mais que je n'avais pas cette ambition d'en faire une série et de me
pointer... Et d'enquêter, surtout. D'enquêter. C'était ça qui dérangeait beaucoup, je pense.
Et de pointer du doigt à chaque épisode un pays, parce que la première saison, c'était 8 épisodes, donc 8 pays dans lesquels, ben justement, le deuxième épisode, c'était la France. Inéluctablement, c'était obligatoire. Et à partir de ce moment-là, ça a été le refus total.
J'ai complètement les blocages sont venus de France, bloqué, parce que vous êtes français, de toute façon, donc les blocages sont venus de France.
Oui, oui, bien sûr.
C'est
pour ça que j'ai eu des prix à l'international pour ce premier épisode.
Donc, mais en France, il y a un nœud quand même, le nœud de vipère, il est quand même, il serait quand même pas mal en France. Quand on nous dit l'affaire Epstein, c'est une affaire américaine, point du tout. Il faut savoir que Madame Maxwell est française, que beaucoup de choses se passaient essentiellement en France. Bon, il y a l'histoire du ranch, etc., mais quand même.
Il y a surtout son appartement, son 800 m², 22 Agnifoche,
oui, il y a les
qui était justement le tout Paris se pressait et là-dedans, ça, et ça, voilà. Il faut le savoir, c'est documenté, c'est pas quelque chose qu'on apprend.
Donc la France, donc voilà, quand je dis que c'est systémique en France, c'est pas simplement pourquoi tonton machin, qui était une sale pourriture de pédos, n'est pas condamné par la justice, c'est que en fait, c'est pas parce que on est tombé sur un mauvais juge qui a rien compris, au dossier, et on s'en rend compte maintenant que c'est systémique, effectivement.
Pour revenir à l'affaire Epstein, alors, par rapport justement à son, je fais juste une petite aparté, par rapport à son appartement, aux perquisitions qui ont été faites suite à son décès, mais il y avait 4500 emails en possession de la justice française depuis 6 ans, et de ces emails, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en a fait la justice? Est-ce qu'il y a eu des mises en examen, etc.? Rien du tout. Il faut que le scandale vienne outre-Atlantique pour que on puisse dire, effectivement, oui, peut-être que... Et encore, quand Macron dit qu'effectivement, c'est une affaire américo-américaine, on se pose des questions, sachant que lui-même apparaît dans les Epstein Files à de nombreuses reprises, je crois que plus de 200. Bon, les occurrences sur son nom ont diminué, c'est-à-dire ils ont dû écrémer et retirer c'est son nom. Donc, c'est un petit peu... Enfin, les emails reliant à son nom. Donc, c'est particulier. Effectivement, la justice ici en France, on peine pour les victimes. Nous qui suivons énormément de victimes à Touche pas à mon enfant Europe, on voit qu'effectivement il y a un grand laxisme. Lorsqu'il y a des peines, quand il y a des peines, il faut savoir qu'elles sont très légères. Oui. La plupart du temps, c'est du sursis. Il faut savoir que sur des crimes perpétrés sur des mineurs, donc des agressions sexuelles, les chiffres de la civile, c'est 160 000 par an.
Ouais.
Un enfant toutes les 3 minutes. Et sur ces plaintes, lorsqu'il y a plainte, uniquement 7% de ces plaintes arrive devant un juge. Et sur ces 7% qui arrivent devant un juge, combien il y a de condamnations? Et sur ces condamnations, combien il y a de prisons fermes? Vous voyez comment ça se dilue derrière? Et derrière, les victimes, naturellement, elles ne sont pas aveugles. Elles voient que, comme quoi la justice ne soutient pas ces victimes. Elles voient qu'il y a une impunité de tous ces agresseurs à la télévision, dans les médias, dans le spectacle. Ouais. Moi, je suis du cinéma. Polanski, tout le monde le sait, et pas que. Il y avait des Maznev qui avaient été à la télévision. On leur déroulait le tapis rouge. Il y avait cette fameuse tribune en 77, signée par les plus grands intellectuels français, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jacques Lang, Kouchner, etc.
Mais Françoise Dolto, faut s'en méfier comme de la peste, c'est-à-dire qu'elle dit des choses bien et d'un seul coup le diable est dans le détail, elle glisse une saloperie et tout l'édifice s'écroule jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle a écrit des choses carrément pédocriminelles. Donc, et on a aujourd'hui des écoles Françoise Dolto, des rues Françoise Dolto, etc. C'est pareil, elle est à bannir, son nom est à bannir absolument de la société. Enfin, je veux dire, c'est est-ce qu'on appelle... Enfin, voilà, je veux pas de réduire le débat à Dittleroom. Mais enfin, quand même, aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe dans l'affaire Epstein, la volonté d'assujettir l'humain, les expériences sur les êtres humains, etc., la manipulation sur les vaccins, jusqu'à maintenant la guerre en Iran, on se rend compte que c'est quelque chose qu'il avait plus ou moins prévu et préconisé, etc., on voit un peu, c'est l'associé du diable, hein, carrément. Et donc, aujourd'hui, voilà, on en est là.
Ce qui est incroyable avec le nom d'Epstein, justement, c'est qu'il est au centre d'un hub, ce qu'on peut appeler un hub, c'est-à-dire c'est carrément c'est tentaculaire. C'est-à-dire que tout le monde passait par lui et il faisait la jonction comme ça. Il avait plusieurs emails.
Sauf que quelques personnes. Il y a des gens qui avaient le nez creux. Il y a un homme, c'est le président de Hermès. C'est la même famille depuis toujours. Il a tout de suite compris à qui il avait affaire. Il a refusé les contacts. Il l'a bloqué de tous les côtés. Et quelques années après, Epstein a voulu, quand on le jetait par la porte, rentrer par la fenêtre. Et il a fait un don des associations d'Hermès lui-même, de lui-même. Et l'argent lui a été renvoyé. Donc, donc en fait, on pouvait le faire. On pouvait, parce qu'on savait qui il était.
Voilà, ça c'est intéressant. Cet exemple, justement, me montre qu'effectivement, lorsqu'on sait, lorsqu'on a la volonté de ne pas s'associer au diable, on le fait.
Ouais.
Et effectivement, depuis très longtemps, il faut savoir que les premières plaintes, c'était en 96, c'était les Sœurs Farmer qui étaient faites à Palm Beach, là où il y avait sa résidence, et tout le monde savait. Voilà, ça a été comme ça pendant 10 ans, mis sous le tapis, jusqu'au moment où il y a eu cette affaire à Palm Beach, où il y avait, vous savez, derrière le pont, ils traversaient le pont pour aller débaucher des jeunes lycéennes ou collégiennes. Et voilà, ils faisaient en sorte de les transformer en rabatteuses en leur donnant $200. Bon, bref, tout ça, c'est documenté. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque déjà de cette enquête faite par la police de Palm Beach, ils voyaient qu'effectivement, il y avait déjà... l'identité de petites françaises qui ont été livrées. Et ça, on a les témoignages.
Est-ce qu'on sait d'où venaient ces enfants ?
Oui, de France.
C'était des parents qui livraient les enfants, c'était des enfants de l'ASE, enfin, à l'époque l'ADA, c'était des enfants d'où ?
Ça, c'est à la justice d'enquêter, et c'est là où moi... Pas du tout, non. On n'a pas accès à ce genre d'informations, déjà. Non, ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui pour moi relève vraiment de l'investigation, mais poussée. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir toute une équipe d'investigation là-dessus. Nous, simple association, société civile, on n'a pas ces moyens-là. Donc, c'est vraiment à la justice de se saisir de ces affaires-là. Mais déjà, à l'époque, il y a une dizaine d'années, on savait pertinemment qu'il y avait des victimes françaises. Les petites avaient 12 ans. Elles étaient offertes pour l'anniversaire d'Epstein. Ça, c'est indiqué dans des témoignages face à lui, quand il est interrogé par le procureur, etc. Et ça n'a pas, on va dire, suscité plus de réactions au niveau de la justice française. Mais même, je parlais des 4500 emails lors de sa perquisition, quid de ces emails ? Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Est-ce qu'il y a eu des mises en examen ?
Pourquoi, à votre avis, comme il nous reste 4 minutes, j'aimerais savoir pourquoi, à votre avis, on barre les noms, parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ou on fait sortir les choses ou pas. Mais c'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. Mais le entre-deux, ça n'existe pas. Enfin, genre, ça annule tout, parce que là, les noms sont barrés.
Oui, je ne sais pas pourquoi la justice fait ça, soi-disant pour protéger les victimes. À mon avis, les victimes veulent plutôt qu'on les reconnaisse comme victimes. Elles veulent plutôt qu'effectivement, elles soient mises en avant pour que leur témoignage puisse peser et que l'opinion publique puisse comprendre à quel point c'est tentaculaire. Non, ils se protègent.
Quelles sont vos actions aujourd'hui avec Touche pas à mon enfant, Farid ?
Surtout en termes de protection, de suivi des cas, notamment des victimes, où on essaye de leur porter déjà secours en termes de conseils. Ça, c'est important, de mise en relation avec des... Parce que nous, on le dit tout le temps, il faut que très jeune, très tôt, on va dire, on sait que la personne a été victime, et il faut qu'elle soit suivie par des professionnels. Ça, c'est important. Il n'y a rien de pire qu'une victime qui couvre ça pendant des années. Moi, j'ai eu affaire à des victimes qui, pendant 50, 60 ans, sont arrivées à 70 ans à parler pour la première fois. Faut savoir que le rassemblement du 4 avril, c'est l'anniversaire de la grande marche contre la pédocriminalité. J'aimerais bien en dire un petit mot.
Allez-y.
Grande marche contre la pédocriminalité, c'est 1500 kilomètres. C'était en 2024, 1500 kilomètres à pied à travers la France et la Belgique. C'est un grand périple que j'ai mené. C'était 55 villes, pardon, étapes. Et pendant ces étapes, la particularité, c'était que je faisais des lives en direct sur des plateformes comme TikTok ou YouTube. Et les victimes venaient sur le live pour parler, pour raconter leur histoire. Donc, on a eu des dizaines et des dizaines de victimes qui se sont confiées pour la première fois. Et c'est là-dessus où, effectivement, je l'avais déjà compris avant, mais les gens qui suivaient ces lives l'ont compris également, c'est qu'il faut libérer la parole. Il faut avant tout que les victimes se sentent épaulées, écouté et soutenu. Et le grand rassemblement, c'est pas pour montrer les muscles face à Macron et son gouvernement, non, ça n'a pas de sens. Ce grand rassemblement, c'est avant tout pour montrer aux victimes qu'on est là, qu'on les soutient, qu'on est à leur côté et qu'il est temps pour elles de briser le silence et de désigner leurs agresseurs. Parce que, bon, je vais dire un slogan un peu bateau. Faut que la peur change de camp, c'est un peu bateau.
Oui, bah,
mais c'est
ça
vrai.
Fonctionne très bien, vous savez.
C'est vrai, voilà.
Quand vous savez que vous allez partir en confetti, si vous touchez un enfant de tel entourage ou de tel chou, j'assure, ça fonctionne extrêmement bien. Et surtout, si vous le faites un jour, eh ben, je vais vous dire, ça ne se produit pas deux fois. Il n'y a pas de nouveau prédateur qui vient. Ça, malheureusement, on ne sait plus le faire en France. Il y a encore des gens qui savent le faire, Dieu merci. Mais donc, peut-être qu'aussi, si les gens gens réagissaient un peu plus. Quand on peut le faire, il y a des moments de sa vie où on peut le faire, des moments où on peut moins le faire, mais je pense qu'il y a aussi, quand il n'y a pas de justice, bah, il faut réagir. Il y a une réaction du peuple. Moi, je suis désolée, hein, j'appelle pas à faire justice soi-même, bien évidemment, mais quand même à réfléchir sur des moyens d'action et peut-être aussi le militantisme pour le retour de la peine capitale dans ces crimes-là. Parce que vous le confirmez, Farid, ça détruit les gens.
Oui, mais est-ce
ça
que
ça détruit les gens, la pédocriminalité?
Bien sûr, ça détruit. Ça, c'est, voilà. Une victime prend perpète. Mais est-ce que la peine capitale, si on va militer pour ça, ça a du sens quand dans un pays, il y a des lois qui condamnent à 20 ans et que le juge derrière donne du sursis.
Du tout.
On pourrait rétablir dès demain la peine capitale. Si l'agresseur finit par avoir du sursis, ça n'a pas de sens. Non, déjà, appliquons ce qui existe déjà. Ça sera un grand, grand travail. Mais surtout, c'est qu'il n'y a pas de pression populaire. À l'heure actuelle, la justice ne fait rien parce qu'il n'y a pas de pression populaire. Donc j'invite tout le monde à venir le 4 avril, place de la République à Paris. Soyons nombreux.
Alors c'est le site internet tpame-europe.org, donc touche pas à mon enfant-europe.org, tpame-europe.org. Donc à 14h le samedi 4 avril, il faut vraiment que vous fassiez circuler cette information. Mais après, on peut aller évidemment dans des instituts pour la justice ou autres, militer aussi pour que la justice et que la peur change de camp. La peur change de camp. Pensez à vous, ce que vous pouvez individuellement faire, au cas par cas aussi, je suis désolée. C'est ça aussi, être fort, autonome et être un citoyen responsable. En tout cas, merci pour la grande marche que vous aviez faite, etc. Et, parce que ça, c'était quand même incroyable. Et merci pour votre engagement qui vous a coûté cher, Farid. Donc stop à la pédocriminalité, grand rassemblement le 4 avril. Amis auditeurs, à dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Salsa Bertin, émission préenregistrée le 11 mars 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 14 mars de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.